Et si je devais donner un titre à ce message que j'ai prêché à Connect Grenoble, comme ça on est en symbiose, les deux églises, ensemble, dans un même ADN, dans un même esprit. Le titre de mon message est « Le bon berger ne renonce jamais ». Est-ce que vous connaissez l'histoire dans Luc 15 du bon berger ? Qui a déjà lu cette histoire ? Qui n'a jamais lu cette histoire ? Levez la main. Est-ce que, super, ok. Est-ce qu'il y a des gens, vous nous visitez ici, pour la première fois, juste levez votre main à votre place, j'aimerais, il y a quelques mains, connecte mon témoignage, est-ce qu'on peut les applaudir et leur souhaiter la bienvenue ? Et du coup, j'ai mis des efforts pour que ce texte soit compréhensible à monsieur, madame, tout le monde, même si vous venez ici pour la première fois. Et je le lis pour vous. C'est un texte qui est dans Luc 15 et c'est Jésus qui partage cela. Il dit « Les collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise vie, prochaine diapo, ils s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Et les pharisiens, les maîtres de la loi, critiquaient Jésus. Et ils disaient « Cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation. » Il mange avec eux. Et Jésus leur dit « Mais qui parmi vous un homme qui aurait 100 brebis, il en perd une. Bien sûr, il va laisser les 99 brebis dans son enclos et il part chercher celle qui était perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Et quand il l'eut trouvée, il est tout joyeux, il met sa brebis sur ses épaules. Puis il rentre chez lui, tout joyeux. Il appelle ses amis, ses voisins, et il dit « Hey, venez, réjouissez-vous avec moi, mes amis, car voici, j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue, je vous le dis. » C'est la même chose quand un seul pécheur change de vie. Dieu est dans la joie, et sa joie est plus grande que pour les 99 personnes justes qui n'ont pas besoin de changer. Amen. Et quand Jésus parle ici, il a deux populations qui sont devant lui. Il y a ce qu'on appelle les scribes, les pharisiens, les sadducéens. C'était les gens religieux de l'époque. Par rapport à la norme, par rapport au standard de la loi juive, par rapport à ce que Dieu avait dicté. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque Dieu a voulu une relation avec son peuple, il a donné sa loi pour encadrer la relation avec son peuple. Et il a donné ce qu'on appelle les 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, honore ton père et ta mère, etc., etc. Et il y a des gens dans leur vie qui ont parfaitement accompli la loi que Dieu exigeait. C'était les gens les plus que parfaits. C'était les bons. Vous êtes avec moi ? Et du coup, il y a ceux qui ont planté. Il y a ceux qui ont échoué par rapport au plan, par rapport à l'intention que Dieu voulait pour chacun, chaque être humain, chacun d'entre nous. Il y a des fautifs, des titubants spirituels qui sont incapables d'accomplir les standards que Dieu exige. Et quand Jésus parle de cette parabole-là, et on le voit ensemble, et vous pouvez lire dans Luc 15, en fait, il donne comme un triptyque, trois histoires qui pointent toujours vers la même symbolique. Trois histoires, la première, c'est celle-ci où je vais zoomer aujourd'hui, c'est un bon berger qui a perdu sa brebis. La deuxième, c'est une veuve, une femme aux drachmes perdues. Et la troisième, qu'on connaît parfaitement et qu'on connaît beaucoup ici, parce que c'est une des valeurs fondamentales dans les églises Connect, dans leur ensemble, c'est l'histoire d'un père qui avait deux fils. C'est tout ce qu'on appelle, dans notre jargon, la culture du père, du cœur du père. Et à chaque fois, Jésus parle, et dans ces trois histoires, il y a toujours cette même dimension, c'est qu'il y a quelqu'un qui est perdu, qui est retrouvé, et il y a une fête. Et j'aimerais m'arrêter dans cette histoire avec cette image de ce bon berger qui a perdu une de ses brebis. Et en fait, il n'y a aucun prédicateur qui va faire ce que j'ai fait ce matin. Je n'ai jamais entendu faire ou dire ce que je vais faire avec vous ce matin. Il n'y a jamais, peut-être par pudeur, peut-être par peur, je ne sais pas, il n'y a jamais personne qui a osé interviewer cette petite brebis. Du coup, venez avec moi, prenons la chaloupe de l'imaginaire et j'aimerais qu'on l'interviewe. Tu vois, qu'on lui pose la question, on lui donne une parole et voilà. Et du coup, alors moi, j'aimerais vous dire que j'ai eu une discussion avec elle la veille de sa cavale. Voilà, vous lui avez peut-être jamais parlé, mais moi, je lui en ai... Et puis, tu sais, dans la discussion, c'était « Ouais, il y en a marre du troupeau, il n'y a pas d'amour dans l'église, les gens sont hypocrites. » Le berger décide tout. C'est toujours lui qui choisit là où on doit aller. Je dis, ah bon, d'accord. Ouais. Et moi, je lui dis, bah, tu penses qu'il devrait donner ton demander ton avis? Absolument. Sommeille dans mon cœur un peu cette France insoumise, LFI. On devrait me demander mon avis. D'accord, ok. Et puis, tu sais, elle me dit comme ça, c'est pas parce qu'on est des brebis qu'on est obligé de le suivre. Je dis, ah bon, d'accord, ok, c'est intéressant, mais d'un autre côté, c'est peut-être ce que font les brebis, tu sais, suivent le berger. Ouais, mais bon, moi je suis une brebis lionne, qu'elle me dit. Ah ouais, tu peux pas comprendre. Ah bon, d'accord. Moi j'aime prendre des risques. Ah ouais, d'accord. Mais c'est intéressant le concept. T'aimes prendre des risques, ok. Et qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, ouais, mais prendre des risques, du coup, tu te casses. Ouais, je vais me casser demain. Je me barre du troupeau. Je dis, ok, d'accord. Et j'en ai marre, moi. Je vais voir si l'herbe est plus verte ailleurs, qu'elle me dit. Je dis, ok, pourquoi pas? Mon mariage, en ce moment, ça va pas. L'église, au début, Connect Montélimar, c'était bien. Tu sais, il y avait l'amour. Les gens s'aimaient, puis maintenant, c'est grand. Personne dit bonjour. Est-ce que... Bon, si toute ressemblance avec une personne forte n'est pure que... Ça n'a rien à voir, hein. C'est à Grenoble souvent ça. Et moi je lui dis, mais tu vas aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Elle me dit, oui, c'est mon intention. Et moi je lui dis, fais gaffe, hein. Hey, oh, l'herbe est plus verte ailleurs. Une fois, moi ça m'est arrivé, hein. J'ai bouffé du plastique. Ça s'appelle du gazon synthétique. Vous savez, la couleur est pareille, l'odeur est différente, mais c'est pas avec ça que vous allez gagner les Jeux Olympiques, hein, si tu bouffes ce truc. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment, dans sa courte vie de brebis, je sais pas, il lui est venu l'envie de prendre un autre chemin, de prendre sa vie en main, et elle a quitté la sécurité du troupeau et surtout du bon berger. Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'en sais rien. Et en fait, si tu mets la prochaine diapo, voilà ce qui se passe. Quand on quitte la sécurité du bon berger, si tu veux juste éteindre peut-être la diapo là, comme ça on voit bien les crocs de la lumière, ouais. Comme ça on voit mieux les crocs du loup. La voici perdue, en danger. Et elle entend peut-être les loups hurler dans l'obscurité. Elle est peut-être tétanisée. Et puis à ce moment-là, tu sais, tu viens l'heure des regrets. Tu fais un peu le bilan de ta vie. Combien chez mon bon berger, les autres brebis avaient du pain et de l'herbe en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Et là, elle est perdue. Et peut-être qu'elle même, elle regrette de s'être barrée sous la protection du bon berger. Tu sais, quand tu n'as plus le même discours. À ce moment-là, quand tu vois des soucis, des loups qui sont tout autour de toi, qui veulent te dévorer, peut-être qu'à ce moment-là, elle se dit, pétard, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Je ne sais pas si j'ai pris une bonne idée. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Est-ce que vous me suivez? Et notre société nous vend l'indépendance comme une richesse, toute cette émancipation de Dieu. Mais Jésus, à tous ces cœurs-là, il leur donne un nom, c'est la brebis au cœur perdu. Quand tu décides par toi-même, quand tu fuis Dieu, quand tu essayes de vivre loin de Dieu, en fait, tu vas te retrouver à gérer des galères et des problèmes que tu n'avais jamais quand tu étais sous la houlette, sous la protection du bon berger. Et en fait, tu ne le sais même pas, mais Dieu, il te sauve la vie 30 fois par jour. Moi, tout à l'heure, j'étais au parc juste à côté avec ma fille de 6 ans. 4 ans et demi, merci ma chérie. C'est dans le futur, t'as pas compris. Mais t'étais pas obligé de me reprendre. 4 ans, 6 ans, c'est pareil, chérie. Oh Seigneur. Ma fille de 4 ans et demi. Et quand elle prend son ballon et qu'elle va jouer proche de l'autoroute, tu sais, que je lui dis non, à ce moment-là, elle pleure, elle crie. Tu sais, pour elle, je lui enlève sa liberté. Ma chérie, je lui sauve la vie 20 fois par jour. Quand je suis avec ma fille, je suis en mode... garde rapprochée, secret de service de Trump. Je balaye le regard, à droite, à gauche, à droite, menace, tu vois. Et elle, tout ce qu'elle voit, c'est le fait que je veux lui enlever sa liberté. Et elle pleure. Et en fait, parfois, on s'éloigne du berger, on se condamne à gérer les loups. On se condamne. Quand tu fuis Dieu, tu t'inscris toi-même à l'école des galères. Tu te retrouves à confronter des choses que tu ne voyais pas. Et souvent, les gens ne le réalisent pas, ne le voient pas, ne le comprennent pas, ne le saisissent pas, ne le mesurent pas. Et laissez-moi vous présenter une brebis qui s'est éloignée de Dieu, qui s'est perdue, qui a été retrouvée en Nouvelle-Zélande 5 ans plus tard. Prochaine diapo. Voilà à quoi elle ressemble. La brebis la plus célèbre de la Nouvelle-Zélande, elle s'appelle Shrek. Brebis star retrouvée après 5 ans perdue dans la forêt. Elle avait soif de liberté. On lui a retiré, si tu mets la prochaine diapo, 40 kilos de laine sur son amas crasseux recouvert de boue, de débit, enchevêtré. Tombe qui fut un événement auprès des enfants. Et si tu remets juste la diapo juste avant, franchement, est-ce qu'elle a la tête d'une brebis épanouie? Voici l'image d'une brebis sans protection, sans Dieu. En fait, tu as besoin d'être tondu. Le mot est un peu fort, oui. Tu as besoin que Dieu vienne enlever de ta vie ta colère, ton péché, ton égoïsme, tout ce qui ne le glorifie pas. Tu as besoin d'être émondé, d'être débarrassé de cette méchanceté naturelle, de cette incrédulité. Et en fait, c'est seulement ce que le bon berger peut faire. Moi, il y a des choses, les amis, j'ai essayé de changer par moi-même, ça a tenu une semaine. Il y a des choses, j'ai essayé même avec la bonne volonté du monde. Tu as besoin de l'action du grand et du bon berger dans ta vie. Et en fait, il vient faire en toi ce que tu n'es pas capable de faire par toi-même. Alléluia ! Que toutes les bergers, que toutes les brebis disent Amen. Amen. Alléluia ! Que toutes les brebis du bon berger disent Mais. Mon point est que quand tu es dans le troupeau, tu ne vois pas tous les bénéfices sous la houlette du bon berger. Et parfois, on ne voit pas tous les bénéfices du corps, de l'église, que le troupeau que représente l'église. Et cette brebis est perdue. Et revenir en arrière, peut-être, elle n'ose même pas, elle n'a pas imaginé revenir au troupeau, parce qu'en fait, elle est perdue. Et j'aimerais donner 2 clés à toute personne si vous arrive d'être perdu dans la vie. Il y a des fois, on arrive d'être perdu. Je ne sais pas pour vous, il y a des fois, moi, vraiment, en toute honnêteté, on se parle franchement ce matin, il y a des fois, je me sens perdu. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Je ne me fais pas confiance à moi-même, à ma capacité à entendre la voix de Dieu. Et puis, parce que je me suis trompé, il y a des fois, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être perdu complètement? Je suis perdu. Je n'ai pas la solution. Je ne sais plus quoi faire. Et j'aimerais donner 2 conseils à toute personne qui est perdue. La première, c'est revenir à l'endroit où tu as bifurqué. Revenir à l'endroit où tu t'es trompé. Beaucoup de parfois des gens, des chrétiens, et qui viennent me voir en me disant « Mais toi, t'es leader, toi, t'entends Dieu, toi, t'es pasteur, que sais-je, dis-moi ce que je dois faire. » En fait, moi, je ne le sais pas, je ne suis pas le Saint-Esprit dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu te dit? Et souvent, ce qui se passe, c'est que, regardez, je prends l'image. Admettons que je marche et que ici, la direction et le plan parfait de Dieu, c'était que je continue là. Et je bifurque et je vais dans cette direction. Est-ce que vous comprenez qu'à ce stade-là, peu importe là où je vais, devant, à droite ou à gauche, ce sera la mauvaise direction. Est-ce que vous me suivez? Du coup, la stratégie, c'est de revenir à l'endroit où Dieu m'avait parlé pour la dernière fois et de faire et de continuer ce qu'il m'avait demandé de faire. Est-ce que vous êtes là? Du coup, 2 stratégies. Reviens à l'endroit où tu as bifurqué, où tu as changé et fais la dernière chose que Dieu t'a dit de faire pour la dernière fois. Lorsque tu as entendu la voix de Dieu, lorsque c'était vrai, lorsque c'était un moment où tu vis ces moments où tu as senti Dieu, eh bien, reviens à ce moment-là. Et parfois, on ne sait plus quoi faire, quelle direction prendre. Et là, il y a cette vérité-là, à moins que Dieu, et quand on regarde l'histoire de cette brebis, c'est ça, elle est complètement perdue. À moins que Dieu ne la retrouve, elle est perdue et elle va mourir. Parce que la brebis perdue, elle a essayé peut-être de revenir à la bergerie, elle n'y est pas arrivée, elle est perdue. Et quand elle fait le bilan de sa vie, suite à un égarement, il y a peut-être que, il y a eu cette première phase de rébellion, j'en ai marre du berger, de Dieu, des chrétiens, j'en vois tout paître. Il y a eu la deuxième phase où elle se voit seule, en danger, elle fait le bilan de sa vie et elle fait le constat peut-être de la vie avec Dieu, c'était quand même bien. Hein. C'était quand même pas mal. Hein. J'étais protégé avec lui. Et le troisième point, c'est que parfois, on ne sait même pas comment revenir à lui. Parfois, on a tellement honte. J'arrive pas à retrouver la communion avec lui. J'arrive pas à retrouver avec la connexion perdue avec ce bon berger. Et j'aimerais vous dire ici, c'est la bonne nouvelle de ce texte, c'est que Jésus, qui représente le bon berger ici dans cette histoire, prend toujours l'initiative d'aller à votre recherche. Jésus, qui est le bon berger, prend toujours l'initiative d'aller à votre rencontre là où vous êtes. Alléluia! Il vient nous chercher. C'est toujours Dieu qui sort et qui va à la rencontre. C'est l'histoire avec Adam et Ève. Lorsque vous regardez que Adam avait péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se cacher, se courir, se cacher derrière un arbre, derrière un buisson. Et c'est Dieu lui-même qui alla à sa rencontre. Adam, il écarte les branches et les haies. Adam, où te caches-tu? Où es-tu? Dieu va à la rencontre du pécheur. C'est encore l'histoire avec Caïn et Abel. Caïn qui menace de tuer son frère Abel. Dieu va à la rencontre. Il le prévient, fais attention dans ton cœur. Le mal est à ta porte. Il le met en garde. C'est également l'histoire avec Pierre. Pierre qui a renié Jésus, qui ne croit plus à son appel, qui retourne à ses bateaux pêchés, à son job d'avant. Jésus va à sa rencontre. C'est à chaque fois Dieu qui prend l'initiative d'aller nous chercher là où on est. Alléluia. Et si tu es perdu, sache aujourd'hui, cette parole que je viens avec pour quelqu'un ici, sache qu'il y a un bon berger qui te cherche, laisse-toi trouver par lui. Cesse de te cacher, de t'égarer derrière ta honte, c'est pas ça qui va régler les problèmes. Et ensuite, il y a cette rencontre, ces retrouvailles. Et du coup, je vous ai interviewé la brebis qui s'est égarée, mais j'ai aussi interviewé le cœur du bon berger. Et si tu mets la prochaine diapo, voici ce qu'il dit. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé celle qui était perdue. Wouhou ! Quand tu es perdu, Dieu ne t'oublie pas. Tournez-vous vers votre voisin et dis, c'est de toi qu'il parle. Et là, spontanément, le mari répond, mais chérie, je ne suis pas perdu. Je suis très bien où j'en suis. Une des dernières choses qu'un homme fera sur cette terre, c'est demander son chemin. Je suis touché, je suis béni, je suis ému. Plongez-vous avec moi dans cette histoire, venez. Le bon berger défie les dangers, écarte les branches et les haies, parcourt plusieurs kilomètres. Vous êtes avec moi ? Et il arrive, et il trouve cette brebis perdue qui a voulu s'émanciper de la protection, empêtré dans des problèmes. Jésus vient et il lui dit « Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, petite brebis ?» Et là, si on se parle très vrai, moi, dans mon cœur de berger et pêcheur, je lui ferai un petit peu une leçon de morale. « Alors, hein, on est bien là ?» Ça va, t'as pas trop soif? Je vais te laisser encore 15 jours, je reviens plus tard. Enfin, vous voyez, il lui a pas fait des leçons. Il lui a pas tenu rigueur. Et en fait, ce qui est complètement dingue, et on voit toute la douceur du bon berger, il lui laisse pas faire le chemin de retour toute seule. Il la prend sur ses épaules. Pourquoi est-ce qu'il la prend sur ses épaules? Elle peut marcher elle-même. Ça lui fera les pieds? Ça lui donnera une bonne leçon? Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi il la prend sur ses épaules? Pour pas lui imposer le chemin du retour. Pour pas la laisser. En fait, il y a ce cœur qui est touchant avec Jésus, c'est que il vient, il nous épargne la honte du retour. Il nous prend dans ses bras. Il nous pense, il nous protège, il nous aime. Il a laissé les 99, il brave la nuit pour aller chercher celle. En fait, ce qui est même touchant, c'est que Dieu n'a même pas délégué la recherche. Genre, j'envoie un pote à moi, quand tu l'auras trouvé, tu la ramènes. Non, il y va lui-même, c'est important pour lui de te retrouver. C'est important pour lui d'aller te chercher. C'est important pour lui de te saisir là où tu es. C'est important pour lui. Et il y avait toutes ces gens, ces castes-là, qui étaient en bonne santé spirituelle, tu sais, les scribes, les pharisiens dont j'ai parlé tout au début, qui, eux, ne se sentent pas comme cette brebis perdue, tu vois. La réalité, les amis, c'est qu'il y a tous un moment dans notre vie où on est complètement perdu. Et Dieu vient, il ne te cherche pas pour te punir, mais pour te porter. Il te prend sur ses épaules quand tu n'arrives plus à marcher. Il l'amène chez lui. Et le cœur du berger, c'est ça. Il l'amène chez lui, il invite tous ses amis, il organise une fête. Venez manger, tuons le veau gras, mangeons et réjouissons-nous, ça vous rappelle quelque chose? Il organise une fête pour cette brebis. Il y a de la joie et de la danse parce que, et c'est ça l'histoire, parce qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Quand il arrive à la maison, il y a cette espèce de fête, de joie, pour cette brebis perdue, retrouvée au milieu du séjour sur le tapis, et pour qu'elle ne se sente pas toute seule, le berger, il a invité ses autres amis bergers en disant « Peut-être amenez vos brebis, vous aussi, comme ça elle ne se sentira pas toute seule, cette petite brebis. » Et tout le monde fait la fête au milieu du séjour, il faut imaginer le discours. Et puis du coup, j'ai interviewé le berger, alors voilà, chers amis, ce matin, je suis content d'être... que vous soyez tous présents ici, parce que à l'heure où vous aviez beaucoup à faire, ben voilà, pour certains d'entre vous savent que voilà, il y a quelques semaines, nous avons perdu cette petite brebis du troupeau merveilleux du Seigneur, et aujourd'hui elle est revenue, et j'aimerais lui laisser la parole pour exprimer quelques mots. Alors voilà, et puis la brebis elle arrive. Et salut, bon, voilà, c'est-à-dire qu'au début, au début, je ne pensais pas trop que ça allait se terminer comme ça. Je ne pensais pas trop que ça allait être autant dans les galères. Et puis finalement, il y a un moment donné, j'ai tout foiré, quoi. J'ai planté, et là, de revoir toutes vos bouilles, merveilleux. Je me sens à nouveau dans la famille, waouh, c'est beau. Que toutes les brebis du Seigneur fassent, mais... Merci, je me sens comme une brebis perdue au milieu du troupeau. Et en fait, moi, je connais des bergers qui, quand ils ont trouvé la brebis égarée, bah, ils lui ont mis une rouste, une leçon, et en fait, c'est pas du tout le cœur du bon berger. En fait, ce qui est dingue, c'est parce que certains peuvent lui reprocher, t'as fait perdre du temps au bon berger, t'avais pas foutu le camp de la sorte, tu t'es jamais mangé une volée de bois vert. Ça, c'est toute l'éducation peut-être autoritaire, difficile, et la Bible nous parle de ce bon berger. Et en fait, le royaume de Dieu, avec Jésus, c'est qu'il te ramène avec joie sur ses épaules. Il y a une absence de condamnation, de réprimande, même de questionnement, de correction. Il y a juste de la joie parce que tu es là. Et en fait, j'ai marqué ceci, il y a de la joie dans le ciel quand tu te repens. Il y a de la joie dans le ciel quand tu admets que tu as tout foiré. Il y a de la joie dans le ciel quand ton orgueil ne triomphe pas de toi, dites amen quand vous voulez. Il y a une admiration, un émerveillement, un éblouissement du Seigneur lorsque ton cœur s'humilie devant lui. Nous n'avons pas honte de nous humilier, de demander pardon, de reconnaître nos torts. Parce qu'il y a de la joie, il y a une joie dans le ciel, il y a une fête dans le ciel quand on demande pardon, quand on se repent, quand on triomphe de notre orgueil. Il y a de la joie dans le ciel. En fait, Dieu célèbre, admire, applaudit le fait qu'on triomphe de notre orgueil personnel. C'est ça qui le touche, c'est ça qui l'émerveille, c'est ça qui l'éblouit. Il fait « Wow, t'as réussi !» Et les pharisiens et les religieux de l'époque, comme des îlots insensibles à l'amour de Dieu, ne pouvant pas les pénétrer, ils étaient confrontés à cet amour. Archi convaincu de ne pas avoir besoin d'être sauvé. Et du coup, Dieu leur tend encore la main. Et j'aimerais dire ceci, les amis, et peut-être ça va parler à quelqu'un ce matin. La réalité, c'est qu'il faut être perdu pour être retrouvé. Et à toute personne, ici, dans ce lieu, si tu te sens complètement perdu, ce message est pour toi. Si tu dis « je suis perdu, je ne sais plus », t'as besoin d'être ramené à la maison sur les épaules du bon berger. La vérité est que je connais personne dans la vie qui n'a jamais été perdu, égaré au moins une fois. Et il y a de la joie dans le ciel lorsqu'on se repent, lorsqu'on revient à lui. Il y a un moment, on est tous plus ou moins des fils et des filles prodigues, des brebis perdues ou des drachmes perdues. Et prétendre le contraire est parfois une illusion. Et c'est souvent la perception, le regard qu'on porte sur nous-mêmes qui est complètement faussé. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans le mot « tous », j'ai bien étudié en grec, tu sais, il y a toi aussi. Vous savez, dans « tous », vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire « tous ». Ok, troisième point, et je termine là. La femme au drachme perdu. Je lis le texte dans toujours ce triptyque, et vous pourrez lire à la maison Luc 15. On le lit ensemble. « Or, encore si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle a en perdu, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, chercher avec soin hein, jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Quand elle l'a trouvée, elle rassemble ses amis, ses voisines, pour leur dire « Réjouissez-vous, faisons la fête, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent que pour les autres qui ne m'en avaient pas besoin. Les amis, j'ai une question à vous poser, peut-être que vous l'aviez manqué. Pourquoi Jésus raconte ces trois histoires ? Question pour un champion, 100 millions. J'offre un iPhone pour ceux qui trouvent la réponse. Je monte les enchères, un iPad. Les autres ne sont pas les mêmes. Oui, oui. Allez, je vais vous aider. Attention, hello, regarde ça, c'est pour toi. J'y pensais. Prochaine diapo, est-ce que ça peut vous aider ? Chut, non. Allez, je vais encore vous aider. Tiens, tu peux éteindre les lumières complètement ? On va essayer. Il y a l'histoire d'un homme, d'un bon berger qui a perdu une brebis. Il y a l'histoire d'une femme qui a perdu une pièce d'argent. Et l'histoire d'un homme qui avait deux fils. Un père qui avait deux fils. Allez, je vous le donne. Quand Jésus présente cette parabole, en fait, c'est l'image de la Trinité. C'est Dieu le Père, la femme au drachme perdu. Et en fait, quand vous lisez la Bible, souvent le Saint-Esprit est décrit avec toutes les caractéristiques d'une mère qui allait, qui console. Et nous avons dans cette histoire la personnification même du Saint-Esprit. Et il y a Dieu le Père qui est dans l'histoire du Fils prodigue. Jésus nous a raconté ces trois histoires pour exprimer le cœur de la Trinité à l'égard de chaque fils et fille qui s'éloignait de son cœur. Waouh ! Et en fait, dans l'histoire de ces trois paraboles, c'est l'histoire du bon berger qui représente Jésus, cette femme qui représente le Saint-Esprit, le cœur du Père. Et croyez-moi, si vous venez aux conférences cœur du Père, à chaque fois on parle de ce Dieu comme un bon papa, et chaque fois on prend le texte du fils prodigue. Et en fait, là, on a cette triptyque, cette mosaïque merveilleuse de la Trinité au complet qui crie vers nous lorsqu'on est loin de lui. Et encore, du coup, je reprends, si tu reviens sur l'image juste après, cette femme, du coup, qui représente le Saint-Esprit. Cette femme a perdu un drachme. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un drachme, c'est une pièce d'argent grecque avec l'effigie de l'empereur romain, qui représente d'ailleurs même l'humanité. Et certaines femmes au Moyen-Orient avaient ces pièces qu'elles mettaient autour du cou. Et c'était un symbole de l'alliance qu'elle avait faite à un moment donné avec leur conjoint, leur mari, et elle les mettait autour de leur cou. Et si ma vie est personnifiée par cette pièce-là, il est parfois possible que la vie fait que je suis perdu ou détaché, et je suis perdu quelque part. Et ce qui est touché, c'est que parfois, il y a des gens dans la vie chrétienne, et ça nous arrive tous à un moment donné, où il y a une forme de décrochage dans notre vie spirituelle. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Il y a un décrochage dans ma communion, dans l'intensité que j'avais dans ma relation avec le Saint-Esprit. Ça parle à quelqu'un ? c'est plus comme avant et c'est comme si il y a quelque chose qui est comme perdu. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que cette pièce-là est perdue, elle est déclarée comme perdue, mais elle est encore dans la maison. Du coup, elle est perdue ou elle n'est pas perdue ? Elle est égarée, elle est perdue. Et non, non, la Bible, elle dit, elle est classifiée perdue. Elle est perdue dans la mesure où elle n'est plus attachée autour du cou du Saint-Esprit. Quand tu n'es plus dans cette intimité, dans cette relation, dans cette connexion qu'il veut avec nous, pour lui, tu es perdu. En fait, tu es déclaré perdu. Je te cherche, je ne te trouve pas. En fait, c'est cette personne-là, c'est cette image d'un croyant-là qui est physiquement dans la maison de Dieu, mais en réalité, il n'est plus en connexion. Il est comme perdu. Et je me suis posé la question, mais comment cette femme qui représente le Saint-Esprit s'en est rendue compte ? Eh bien, il y a un moment donné, le Saint-Esprit va vouloir compter son argent, compter sur les gens qui sont disponibles pour être utilisés de lui ou pas. Le but d'une pièce de monnaie, c'est d'être disponible à la disposition du Saint-Esprit. Et j'aimerais vous poser une question très très simple à toi individuellement qui m'écoutes. Toi et le Saint-Esprit, vous êtes comment ? Un peu ? Beaucoup ? Passionnément ? Pas du tout. Vous en êtes où ? C'est quoi la relation que tu as avec le Saint-Esprit ? Et cette femme va mettre en place des actions pour partir à sa recherche. Elle allume la lumière, symbole de l'éclaircissement de la parole. La lumière, c'est la parole de Dieu qui éclaire notre sentier. Elle allume la lumière. Elle va venir confronter parfois des choses dans ta propre vie qui ont besoin d'être changées. Est-ce que vous me suivez ? À la lumière de la parole de Dieu. Et c'est comme si tu vas être confronté à des choses dans ta propre vie où il y a besoin d'un changement, où il y a besoin d'être réhabilité, d'être réaligné. Parfois, des mensonges qu'on a adoptés, des mensonges qu'on a crus, il y a des clés de lecture qui vont être données dans ta situation. Ensuite, elle balaye la maison. Elle met de l'ordre. Le changement, c'est maintenant. Elle met de l'ordre. Et ensuite, elle cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. C'est cette notion de persévérance. En fait, le Saint-Esprit ne renonce jamais. Quand bien même tu es perdu sous la poussière, quelque part dans cette pièce. Et il y a peut-être des gens ici, alors que je priais pour ce message, il y a peut-être des gens, vous dites, ouais, mais moi, je viens à l'église, mais bon, tu te perds dans la masse. Tu es caché dans la poussière. De toute façon, si je viens pas, les gens ne le verront pas. Je fais partie de la déco à l'église, je suis une plante verte cachée quelque part. Je fais partie des meubles, on ne voit pas, ça me va bien, ils vont bien, je vais bien. Sauf que quand tu lis cette parabole-là, c'est que le ciel n'est pas le même si tu n'es pas attaché à son cou. En fait, tu fais partie de la famille de Dieu. Tu as ton histoire à toi. Dieu veut, toi aussi, que tu sois attaché à son cou, utilisé à tout moment, disponible à tout moment. Et aujourd'hui, moi, je suis chaud, chaud. Je dis, Saint-Esprit, si tu as besoin, I am here, je suis là, chaud bouillant. Le lundi matin, le samedi matin, le mercredi, on est... Et il y a des fois ces moments où on a besoin d'être repris par lui. Mais est-ce que tu es disponible à ce que Dieu veut faire maintenant ? Et ce n'est pas l'histoire simplement d'un ministère de « Oh, Jonathan qui est en feu » ou « Des leaders qui sont en feu ». Non ! Ce n'est pas l'histoire des autres, c'est ton histoire à toi. Mets un coup de coude à ton voisin, c'est toi qui cause. Dis ça à quelqu'un à côté de vous. Je vous vois là, c'est de toi. Et la puissance de Dieu, ça te parle ? Les miracles, ça vous parle ? À quand remonte ton dernier miracle ? Je ne sais pas. Ouais, mais en fait, tu sais quoi ? Ça ne demande pas de diplôme pour faire des miracles. Ça ne demande pas de diplôme pour être gentil, gentille. C'est juste d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Qui a donné sa vie à Dieu ici ? Qui veut vivre des miracles ici ? Parfait. Tu es un candidat au miracle. Du coup, est-ce que tu es disponible ? Est-ce que tu es attaché à son cou ? Disponible en connexion avec le Saint-Esprit ? Je vais demander à Thomas, et je termine ici, si tu veux bien venir, Thomas, te mettre au piano. Je vais faire un appel ici, ce matin. Pas plus tard que hier, J'étais avec mon épouse, on rencontrait des personnes de notre famille à qui on n'a jamais osé parler de Dieu. Et puis, il y a toute cette pudeur-là parce que c'est des gens de ta famille qui sont là, tu n'oses pas parler. On était à table et puis c'est des gens qui sont agnostiques, athées depuis des années. Puis juste alors qu'on parlait, il y a tellement de problèmes qui se sont passés dans leur vie, des suicides, tout un tas de choses. Et puis c'est des gens que je ne vois jamais, qui sont assez éloignés de ma famille. Puis j'étais à table et dans mon esprit, j'y vais ou j'y vais pas. J'y vais ou j'y vais pas. Combien de comprennent de quoi je parle ? D'accord. J'y vais ou j'y vais pas. Et puis il y a toute une partie de moi. C'est pas toi qui attire les gens, c'est le Seigneur. Et tout. Puis il y a le Saint-Esprit qui me dit, mais et si c'était la dernière fois ? Et puis tout d'un coup, très spontanément, très gentiment, des gens qui ne veulent absolument rien entendre parler de Dieu, je leur dis, vous savez les amis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde va mal. Et Dieu, quand il est venu changer le monde, il a voulu changer des individus qui se tiennent disponibles à lui. Et vous pourriez faire partie de ces personnes-là. Ah bon ? Ouais, complètement. Et peut-être que vous n'aviez jamais cru, jamais pensé. Et peut-être que vous pourriez simplement lui adresser quelques mots et le laisser intervenir dans vos vies. Ah bon, c'est possible ? Ouais. Est-ce que vous accepteriez juste que je prie pour vous ? Ouais. Je vous demande juste de fermer les yeux. Seigneur, je te prie maintenant de venir par ta présence, par ton onction, faire ce que toi seul sais faire. Elisa a commencé à prendre la main d'une de mes tantes, à lui dire, écoute, voilà ce que je ressens que Dieu est en train de me dire pour toi. Ma tante, pas du tout engagée pour Dieu, plutôt chamaniste, branchée sur plein d'autres choses, en larmes. Nous vivions là un miracle sous nos yeux, à des brebis perdues qui allaient à la rencontre du divin berger. C'est tellement vrai, les amis, c'est tellement vrai. Il y a des années de ça, j'étais au Canada et je priais et je dis, c'est comme si le Seigneur disait, mais dis-leur cette histoire. C'est l'histoire, pendant des années, j'ai vécu au Canada. Il y a un jour, ce leader canadien, ce pasteur d'une grosse congrégation qui était venu nous voir et qui raconte qu'il était, il était dans son bureau en train de préparer son sermon et il a son fils de 4 ans ou 6 ans qui à un moment donné s'est perdu dans la maison et il raconte cette histoire. Pendant longtemps il avait essayé d'avoir un enfant avec sa femme, ils n'étaient pas arrivés et c'était le miracle de leur vie. Au dernier moment, alors que c'était plus possible, ils ont eu un enfant. Et peut-être qu'il y a certaines personnes qui comprennent de quoi je suis en train de parler, mais tu sais, il avait le syndrome du fils unique, tu sais. C'est lui, on y fait attention, dès qu'il se fait mal, on a une surattention sur lui, parce que c'est le seul, faut pas le casser, quoi, tu vois. Il y avait de la joie, c'est notre fils unique. Et un après-midi, ensoleillé, il l'appelle dans la maison. Chérie, t'es où ? Une fois, deux fois, trois fois, dix fois, il le trouve pas. Il se calme, il sort dehors, il le trouve pas. Puis il a 5 ans, c'est 6 ans, c'est petit quand même. Et là, il raconte... En fait, l'angoisse qui a commencé à monter crescendo, c'est pas possible, il monte, il descend, il monte, il va voir les voisins, personne ne l'a vu. Il appelle sa femme prend la voiture, arrive, tout paniqué, et il dit à chaque fois, quand il raconte l'histoire, c'était à un moment donné, il le décrit avec ses mots, mais c'est comme si, et peut-être que certains parents ici, quand ils ont perdu un enfant, vous comprenez de quoi je parle, les minutes deviennent des heures. Dit, j'étais comme suspendu, comme en apnée. Ma femme arrive, elle est déjà en pleurs. Et quand je vois ma femme arriver, la peur augmente. Et là, c'est de peur. Et tes jambes deviennent de coton. Et tous les voisins se mettent à la recherche ensemble de son fils perdu. Et il est là. Et il va à l'arrière de la maison. Et il commence à chercher une fois, deux fois. Il retourne dans les mêmes pièces. Toujours le fils n'est pas là. Et il dit... c'est à ce moment-là où mon cœur il a commencé complètement à vriller. Les chiens arrivent, les chiens de police sont là et la police est là et lui à ce moment-là il raconte que je me suis dit ça y est on est dans une série Netflix, ça y est c'est vrai, c'est le cauchemar que j'ai toujours redouté, il est là, il est en train de se passer. Et alors qu'il raconte ça,
il va derrière la maison parce qu'il y avait une petite rivière qui était là. Et là, quand il est dans la rivière, les pieds dans l'eau, il crie, mon fils, où est-ce que tu es ? Et il raconte qu'à ce moment-là, il était les pieds dans l'eau jusqu'aux genoux et tu fais plus attention à ses chaussures à plusieurs centaines de dollars. Et il crie à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, tout mais pas ça. Ramène mon fils et il ne sent plus le froid, la douleur. Et quand tout d'un coup, il y a un policier qui vient, il dit, monsieur, 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 on m'a retrouvé votre fils. Il rentre à la maison, son fils était caché dans une armoire après avoir mangé une glace. Et il s'est dit, on est bien ici, je devrais faire une sieste. Quand il est arrivé devant son fils, t'as envie de le gifler, de le prendre dans les bras. Et la redescente, mais tu sais, l'émotion, le choc émotionnel, il a pris 25 ans en 10 minutes, quoi, tu vois. Il a... Bam, 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 arrêt cardiaque. Et puis tout de suite, en fait, le soir, il avait une réunion. Il avait complètement oublié la réunion avec toutes ses péripéties. Il saute dans une voiture, il court à l'église et puis il se retrouve projeté dans cette même ambiance qu'on est vu là. La louange qui était là, fond de piano. Et puis là, il est là, il dit, Seigneur, merci pour mon fils. Et il se revoit en train de courir et il a à nouveau cette image où il est perdu dans la rivière, les pieds dans l'eau. Il crie à Dieu et il nous raconte ceci. Il entend comme rarement la voix de l'Esprit de Dieu qui lui dit, c'est comme ça que je me sens lorsque t'es perdu et lorsque t'es loin de moi. Les amis, je vous demande de fermer vos yeux ici ce matin. Mais il y a cette réalité-là à toute personne qui veut l'entendre, à tout homme et femme qui sont perdus, où tu es peut-être physiquement là, tu es peut-être physiquement ici. Mais il y a quelque chose dans ta communion avec Dieu, il y a quelque chose dans ton intimité avec Dieu qui a été perdu. Et j'aimerais te dire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont à ta recherche. Ils parcourent les branches et les haies. T'es peut-être dans un point de ta vie où tu réalises qu'il n'y a rien qui va plus. Et peut-être si tout va bien, alléluia, je te félicite. Et j'espère que ça continuera encore pour toi. Et mon appel ici est pour deux catégories de personnes ce matin. Une première catégorie de personnes qui sont cette brebis perdue qui s'est éloignée de Dieu. Dans ton cœur, c'est plus pareil. Dans ton cœur, il n'y a plus cette passion. Ou peut-être que tu n'as jamais découvert ou rencontré Dieu. Comme à l'image de mes tantes, où tu n'as jamais eu l'opportunité, tu n'as jamais eu la possibilité. Madame, monsieur, qui que vous soyez aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'un changement de vie est possible. Et à toi, à vous qui êtes ici pour la première fois peut-être dans cette église, la main de Dieu est tendue vers vous. Et Jésus aimerait vous rencontrer, Jésus aimerait démarrer une nouvelle vie dans votre âme et dans votre cœur. Et je vous invite tout simplement à ouvrir votre cœur et à le laisser rentrer. Et j'aimerais aussi inviter cette catégorie de personnes où tu es physiquement dans la maison, mais tu es comme perdu. Il y a plus cette, tu n'es plus attaché au cou du Saint-Esprit, tu n'es plus dans cette dimension d'intimité, d'alliance profonde avec lui. Il n'y a plus cette légèreté de cœur parce que tu as le cœur qui est lourd à cause de plein d'événements peut-être qui te sont arrivés dans la vie, à cause de tout ce qui se passe. Tu es pollué avec tout l'environnement qu'il y a autour, le Covid, l'Ukraine et j'en passe et des meilleurs. Et c'est comme si il y a quelque chose qui a séché, qui est mort en toi. J'aimerais te dire qu'il y a la présence de Jésus et le Saint-Esprit qui est ici, qui veut à nouveau t'embraser, à nouveau souffler sur toi avec une dimension et une force et une puissance que tu n'as peut-être jamais connue. Et c'est ce matin. Et ce ne sera pas la semaine prochaine. Et ce ne sera pas dans un mois. Mais c'est ici et maintenant. C'est ce matin et maintenant que celui qui a des oreilles entende. C'est ici et maintenant. C'est pour toi.